Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre est partenaire du Salon Seigneur Occitanie 2017 qui a lieu le 20 avril à Toulouse au centre des congrès Pierre Baudis. Radio Présence est partenaire de cet événement et vous pourrez rencontrer nos invités sur le Salon des Seniors. Nutrimania est une entreprise spécialisée dans la diététique, un vaste sujet qui nous concerne tous, du bébé au senior. Virginie Malin, cofondatrice de l'entreprise, est avec nous pour en parler. De l'exercice physique, des fruits, des légumes, moins de sel, moins de gras, il n'y a pas de régime miracle pour être en forme et il faut souvent faire preuve de bon sens. Bonjour Virginie Malin.
Bonjour.
Vous avez fondé votre entreprise Nutrimania avec Caroline Garros il y a quelques années. Votre entreprise est une agence de conseil diététique, c'est bien ça? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, mon entreprise est une agence de conseil diététique, mais pas que. Ouais. Elle fait de la formation professionnelle et de l'animation. L'objectif, c'est de donner les clés particulièrement aux professionnels pour pouvoir mettre en place une alimentation adaptée à des publics dont ils ont la charge ou pour des repas qu'ils préparent pour ces publics.
Alors, quand on parle, oui, de professionnels, vous pensez aux professionnels de la petite enfance ou plutôt du grand âge?
Alors, lorsqu'on a démarré Nutrimania en 2010, nous nous adressions à tous les professionnels qui étaient impliqués dans la préparation d'un repas ou dans le régime alimentaire d'une personne. Mmh. Au fil des années, l'entreprise s'est spécialisée dans l'alimentation de la personne âgée.
D'accord, ok.
Alors, parce qu'il y a des problématiques très particulières. Ouais. Il y a une courbe démographique qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, qu'il y a de plus en plus de besoins, et qu'il y a un réel enjeu, puisqu'en fait, l'alimentation est une clé du bien vieillir. Je pense qu'on en parlera.
Ouais,
et que, donc, si on mange bien, on vieillira bien. Et vu le nombre de personnes âgées, on a intérêt à faire
qu'elle
quelque
mange
chose.
Bien. Ouais.
Exactement.
Alors, justement, pourquoi la personne âgée, on va dire? Pourquoi les professionnels spécialisés dans l'accompagnement de la personne âgée?
Parce que justement, il y a plus de besoins quand on vieillit, mmh. On a plus de pathologies, on a des besoins qui sont différents. Et une alimentation qui n'est pas adaptée engendre un risque de dénutrition, d'affaiblissement et donc, au bout du compte, un risque de dépendance.
Alors ça, vous vous en êtes aperçu, j'allais dire vous, sur le terrain, ou ce sont des enquêtes, études qui le montrent?
Oui, ça c'est un phénomène connu. La dénutrition aujourd'hui, elle touche à l'hôpital jusque plus de 50% des patients hospitalisés. Mmh. En maison de retraite, ça peut aller jusqu'à 40% et au domicile jusqu'à 10%. Donc c'est un vrai phénomène.
C'est un vrai problème.
Ouais, c'est un vrai phénomène sur lequel il faut travailler.
Quand on dit dénutrition, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne âgée ne s'alimente plus, refuse de s'alimenter pour des raisons par choix, pour des raisons médicales?
Non, ça ne veut pas dire que la personne âgée ne s'alimente plus, mais ça veut dire qu'elle a une alimentation qui ne correspond pas forcément à ses besoins nutritionnels, qui avec l'âge deviennent spécifiques. Et lorsque vous ne couvrez pas vos besoins nutritionnels, vous avez les muscles qui fondent, vous avez une fragilité, vous pouvez chuter. Et voilà, donc là, c'est compliqué.
Mais pourquoi en arrivons-nous là, j'allais dire? Est-ce que c'est par méconnaissance, justement, de l'alimentation?
C'est par méconnaissance, et puis il y a beaucoup d'idées reçues. On dit que quand on vieillit, il faut moins manger.
Moins de viande.
Qu'il faut manger moins de viande, alors qu'au contraire, il faut des protéines pour conserver les muscles. Donc il y a beaucoup d'idées reçues qui engendrent des comportements qui ne sont pas favorables, justement, à se bien vieillir.
Donc il y a toute une éducation à faire, c'est votre rôle. Quand vous parlez de formation, c'est ça.
Exactement, il y a une éducation à faire alors auprès des professionnels qui s'occupent des personnes âgées et aussi auprès des personnes elles-mêmes qui sont encore à leur domicile pour éviter qu'elles deviennent dépendantes et qu'elles se retrouvent justement dans des maisons de retraite avec ces professionnels. Donc on fait à la fois de la formation et de l'animation de sensibilisation auprès des personnes âgées.
Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, on peut imaginer une aide-soignante qui va au domicile de personnes âgées ou un auxiliaire de vie. Mmh. Ce sont aussi à eux, j'allais dire, d'expliquer qu'il faut avoir des repas équilibrés, ce qu'il faut privilégier comme aliment ou pas.
Enfin, ça peut être à eux, effectivement, mais déjà, eux, leur rôle, notamment l'auxiliaire de vie, ça va être de faire les courses ou de préparer un repas qui va être adapté à ses besoins
en fonction
de ce qu'est la personne, de ce qu'elle a comme pathologie. Après, la personne âgée elle-même, c'est important qu'elle comprenne comment elle doit s'alimenter. Et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Dans ces cas-là, on est mandaté par une collectivité ou par une association qui nous demande de créer des groupes de personnes et puis d'animer des ateliers avec elles.
Mais on sent bien dans ce que vous dites qu'il y a un véritable déficit en termes d'informations.
Alors, au niveau de l'alimentation, je crois qu'il y a un déficit multigénérationnel. Avant, je pense qu'on s'alimentait de manière très équilibrée et très saine. Maintenant, avec l'industrialisation de l'alimentation, avec les nouveaux modes de vie, avec la culture qui change, on a moins de culture culinaire. Et donc, effectivement, il y a une vraie problématique à tous les niveaux, tant au niveau des jeunes que des moins jeunes.
Et peut-être une surmédiatisation de certains concepts, entre guillemets, un petit peu tendance.
Il y a une cacophonie de concepts.
Ouais.
Tous tendance à un moment donné, puis qui deviennent obsolètes après. Et donc, il est très difficile pour les gens de s'y retrouver.
C'est exactement ça, ouais,
c'est le dernier qui a parlé qui a raison, mais ça engendre vraiment des vraies problématiques de santé à certains niveaux.
Ouais. On parle de concept, hein, de tendance, mais on pourrait aussi parler de régime. C'est la même chose. Qu'entend-on sur les régimes, que l'on ait 20 ans ou que l'on ait 70 ans?
Tout à fait. Tout à fait.
Vous avez des retours par rapport à ça de personnes âgées qui vous disent « je vais faire un régime parce qu'il paraît que c'est bien pour moi à mon âge ».
Alors on a beaucoup de jeunes seniors, alors quand je dis jeunes seniors c'est entre 60 et 70 ans, qui sont persuadés qu'en fait il faut manger beaucoup de fruits et légumes, pas manger gras, pas manger sucré du tout, pour se maintenir sa ligne.
Ouais.
En fait, quand on vieillit, c'est pas ça. Quand on vieillit, il faut manger riche et manger équilibré, certes,
manger
mais
gras,
manger riche. Non, pas manger gras, mais manger riche. Il y a des bonnes graisses qui sont très importantes.
Et comment vous avez décidé, Virginie, de créer votre entreprise? Alors vous n'êtes pas diététicienne, hein?
Non, nous, on a créé Nutrimania. En fait, l'idée, c'était de mettre des compétences complémentaires les unes à côté des autres. Donc, mon associée Caroline est diététicienne et ingénieure agro. Et moi, je suis plutôt spécialiste de la gestion de projets.
D'accord,
donc, l'idée, c'était de se mettre ensemble voilà, pour pouvoir développer des projets. On a créé Nutrimania tout simplement parce qu'en fait... En échangeant avec des professionnels, on a pris conscience que quand un professionnel avait besoin d'être accompagné sur la nutrition, sa seule alternative, c'était l'annuaire avec des pages jaunes, avec des diététiciennes. On ne connaît pas leur parcours. La plupart travaillent sur la minceur, alors que la diététique, c'est bien au-delà de la minceur et pas que, et heureusement. Et on s'est dit, il n'y a pas d'offre pour ces professionnels, une offre qui soit lisible, qui ait pignon sur rue et qui soit... rassurante.
Oui, c'est ça, surtout.
Parce que dans ce métier-là, il y a de tout.
Il y a, alors, rassurant, ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute, vous êtes dans la pédagogie, vous êtes à l'écoute, c'est un métier où on est dans l'humain à 100%.
C'est un métier où on est dans l'humain à 100%, mais on est aussi dans l'expertise. Quand on fait, par exemple, un audit nutritionnel dans une maison de retraite, on travaille sur l'organisation de la prise en charge nutritionnelle, on travaille sur la formation des personnels, on travaille sur les menus, enfin, il y a une réelle expertise derrière.
C'est ça, ouais.
Et quelqu'un qui n'a pas cette expertise peut amener l'établissement à faire des choses qui ne sont pas forcément favorables aux résidents, par exemple.
Ouais, tout
donc,
à fait.
L'idée, c'était vraiment d'avoir de constituer un réseau d'experts sur l'alimentation avec des gens qui sont diplômés, des gens qui sont expérimentés et de proposer des prestations professionnelles. Ce qui nous semblait ne pas exister, en tout cas, de manière... construite et organisée. Donc c'était l'objectif.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement frappé lors de vos audits avant que vous n'interveniez? Prenons l'exemple des maisons de retraite.
Il y a de multiples cas. Il y a des établissements qui ont une réelle envie de faire quelque chose sur la nutrition, qui ne savent pas trop comment faire, mais qui ont déjà une démarche. Et puis, on a rencontré des établissements qui n'avaient aucune démarche et pour lesquels la nutrition était une virgule.
C'est ça.
Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. On le sait. C'est... voilà, donc on a eu de tout, effectivement. Et ça dépend beaucoup dans ces cas-là du directeur qui impulse un peu la dynamique.
Est-ce que les choses changent, d'après vous?
Oui. Oui, les choses changent. La nutrition fait partie maintenant, notamment dans les établissements de personnes âgées, des projets d'établissement. Il y a des budgets qui ont été... mis en place par l'Agence régionale de santé notamment, aider les établissements là-dessus. Il y a certains conseils départementaux qui aident à financer la présence d'une diététicienne. Donc oui, ça change. Ça change.
Ça évolue.
Ça évolue et puis les maisons de retraite ont un taux d'occupation maintenant qui est pas toujours de 100%, parce qu'il faut quand même pouvoir financer sa maison de retraite. Et donc la restauration et l'alimentation, ça fait partie des arguments, entre guillemets, commerciaux pour faire attirer les résidents.
C'est ça.
Donc avoir un restaurant dans lequel on mange bien, pouvoir prouver que l'alimentation est équilibrée, qu'il y a une diététicienne qui s'occupe de vous et de vos régimes, c'est un vrai argument.
Ah oui, d'accord.
Donc ils en ont pris conscience aussi et ça s'est mis en avant maintenant. Donc ça favorise une meilleure alimentation dans l'établissement. Donc,
oui,
au final,
quelque
tout le monde
part, bien sûr, bien sûr. Donc ça c'est plutôt positif pour
tout
vous
à fait,
aussi.
Tout à fait.
Ça veut dire que vous arrivez à faire passer le message.
Oui.
Et vous Virginie, sur un plan personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez l'impression de faire du bien, on va dire, pour parler simplement.
Ah, tout à fait. Tout à fait, puisqu'on voit vraiment l'impact de l'alimentation sur la santé des personnes assez rapidement. Et donc, ça a un vrai sens. Moi, j'ai eu 50 ans il y a un an. Et depuis que j'ai 40 ans, c'est très important de faire quelque chose qui a du sens dans mes actes, y compris dans mes actes professionnels. Et donc, travailler sur l'alimentation, c'était une vraie démarche d'apporter quelque chose.
Donc, ça correspond aussi à votre parcours. Hein.
Complètement.
Vous étiez dans quel univers?
Avant, j'étais dans le conseil en organisation et j'ai déjà créé deux entreprises avant, mais qui étaient dans des domaines différents, la décoration et le textile, donc rien à voir.
Donc rien à voir avec l'alimentation. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez envie de quoi, j'allais dire? Vous vous projetez un peu dans les années qui viennent, dans l'entreprise, dans Nutrimania?
Aujourd'hui,
de développer l'entreprise, par exemple.
On a construit sur la région Midi-Pyrénées un modèle qui nous semble être efficace au niveau justement de ce qu'il apporte.
Ouais.
Et on a envie de pouvoir dupliquer ce modèle, je ne sais pas sous quelle forme, mais sur les autres régions pour pouvoir l'élargir. Non pas avec un objectif d'élargir la taille de l'entreprise en elle-même, mais de pouvoir faire rayonner, entre guillemets, tout le travail qu'on a fait. Parce qu'on a beaucoup travaillé à concevoir des ateliers d'animation, à structurer des audits nutritionnels. Et je pense que ça peut vraiment apporter dans beaucoup de domaines.
Vous restez avec nous, Virginie. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Virginie Malin, cofondatrice de l'entreprise Nutrimania. Vous serez présente, Virginie, avec votre équipe, sur le salon Senior Occitanie le 20 avril à Toulouse, au centre des congrès Pierre Baudis. Bonjour Michel Dagras.
Bonjour.
Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Vous avez écouté la première partie, vous étiez présent avec nous, première partie de cette émission. Première question peut-être à Virginie, Michel.
Oui, bonjour madame. J'ai été saisi par la diversité des personnes qui constituent votre groupe de travail. Cette sorte de fédération, pas seulement de compétences, mais aussi de diversité de situations, je pense. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je ne crois pas au travail solitaire. On a une phrase affichée dans notre bureau qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et ça, c'est vraiment c'est le fil conducteur de notre manière de travailler. On travaille toujours en groupe parce qu'on a tous des lunettes différentes, on a tous un parcours différent, on a tous une sensibilité différente. Et donc, quelles que soient les actions que l'on mène, on est toujours au moins deux autour de la table, il peut nous arriver d'être 10. Voilà. Et on fait fuser les idées, on fait fuser les méthodes et on construit autour de ça. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie. C'est une réalité.
Dans votre référentiel de valeur, en quelque sorte...
C'est le socle.
Votre phrase est très belle, tout ça ne va plus
vite. Elle n'est pas de moi.
Non, peu importe, ensemble on va plus loin, vous avez tout à fait le droit de vous l'approprier. Et moi j'en fais aussi mon profit en l'écoutant. Hein. Mais tout à l'heure, dans l'interview, on vous disait, votre affaire, vous êtes dans l'humain à 100%. Je vois bien l'humain dans l'éducation, à la nourriture, être mieux dans son corps, cette sorte de capacité à se découvrir, à se mieux connaître soi-même, cet adage socratique, connaître toi-même. Et là, il n'y a pas d'âge pour cela, on continue tout le temps. Mais comment vous situez-vous, vous situeriez-vous par rapport à d'autres domaines du connaître toi-même, qui touchent aussi la philosophie, la culture, l'intelligence, l'affection? Et pas simplement la nourriture physique.
Alors, vous parlez de moi, là, ou vous parlez des gens auxquels on s'adresse?
Des gens auxquels vous adressez.
D'accord.
Mais je suis persuadé que vous serez impliqué dans ce que vous direz, là.
Ben, je pense que l'alimentation, c'est d'abord un acte très personnel. Donc, effectivement, il faut se connaître, il faut connaître ses besoins, il faut respecter ses besoins et aussi respecter ses envies. Et respecter l'envie de l'autre aussi. Quand une personne va faire un repas pour une personne âgée, par exemple, la première des choses qu'on lui dit, c'est respecter ses envies. Qu'est-ce qu'elle a envie de manger? Qu'est-ce qu'elle a l'habitude de manger? Où est-ce qu'elle a du plaisir à manger? Donc on est vraiment centré sur la personne et sur ce qu'on connaît d'elle et ce qu'elle elle connaît d'elle-même aussi. C'est vraiment la première des choses.
C'est sûr, Michel. Là, vous mettez l'accent sur les désirs, mais enfin, c'est... Je connais des personnes, et moi dans un autre domaine peut-être, qui adorent le chocolat, et c'est pas forcément ça qui va leur faire beaucoup de bien. Le désir, besoin, il n'y a pas un distinguo là, qui pourrait être fait? Par exemple, on a besoin, à mon âge, de boire de l'eau, et j'ai pas toujours soif. Il faut se forcer un peu pour boire de l'eau.
Oui, alors là, c'est effectivement un besoin et voilà. Il faut se forcer. Mais vous avez besoin de manger et par exemple, on va vous proposer, un hamburger, je force vraiment le trait, ou un pot-au-feu.
J'opte pour le pot-au-feu.
Vous faites jeune homme, mais je pense que vous opterez pour le pot-au-feu quand même.
Oui.
Hein, c'est votre désir, mais c'est aussi votre besoin.
Tout à fait. Et un autre point qui fait partie de votre projet, là, de cet ensemble de valeurs qui sous-tendent votre action, c'est celui de l'autonomie. C'est pas simplement le plaisir de manger comme il faut, d'être avec des nutriments qui sont convenables, mais vous l'avez signalé au passage, l'autonomie, plus on avance en âge, plus on verse dans la dépendance. Et ce maintien de l'autonomie, vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que c'est très important.
Oui, alors la préservation de l'autonomie, ça rejoint tout à fait la première notion dont on parlait, du plaisir et du désir, parce que donc pour rester autonome, il faut avoir une alimentation qui correspond à ses besoins. Ça, c'est une première chose. Or, je vous mets devant vous une assiette qui correspond à vos besoins. Si vous n'avez pas le désir ou le plaisir de la manger, vous ne la mangerez pas. Et donc, votre autonomie, elle ne sera pas préservée au bout du compte. Donc, ça passe forcément par le plaisir. Le maintien de l'autonomie, il passe forcément par le plaisir de manger. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, nous. Il n'y a pas que la notion technique de la nutrition, il y a vraiment comment faire plaisir à la personne pour qu'elle ait envie. Et l'envie, ça n'est pas que ce que vous avez dans l'assiette, c'est... La personne que vous avez à côté de vous à table, si vous êtes seul, vous mangez moins. Il y a une étude qui est sortie, une étude américaine, qui dit qu'une personne âgée, vivant seule, a une prise alimentaire, donc mange 45% de plus lorsqu'elle a son aide ménagère, par exemple, qui fait le ménage autour d'elle, mais qui est là, que lorsqu'elle est seule, chez elle, dans un appartement vide. Donc cette notion...
On appelle ça même la convivialité, c'est le vivre ensemble.
C'est le partage, bien sûr.
C'est pas simplement s'alimenter, c'est manger avec d'autres,
tout à fait.
C'est très important.
L'autonomie, ça me semble important aussi, Virginie, peut-être de souligner le fait de préparer son repas. On parle d'autonomie, c'est-à-dire savoir manger seul, bien évidemment, mais aussi participer à la préparation du repas.
Tout à fait, c'est vraiment... De toute façon, le maintien de l'autonomie, c'est une clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à perdre votre autonomie, qu'elle soit pour vous déplacer, pour faire vos courses, pour préparer le repas, ça devient psychologiquement très difficile. Et donc très souvent, vous sombrez dans la déprime vous coupe l'appétit, et c'est là où on rentre dans cette spirale qui va nous amener à la dénutrition et à la perte d'autonomie. Donc c'est vraiment très important, et d'ailleurs lorsqu'on travaille avec des aides à domicile qui ont l'habitude de préparer le repas avec les personnes, on regarde avec elles qu'est-ce que la personne est encore en capacité de faire. C'est même ça. Si elle peut pas faire grand chose, elle peut peut-être éplucher une pomme de terre, elle peut peut-être participer au lavage des légumes, voilà, pour au moins contribuer. Et quand elle fait ça, elle mange plus.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment un lien fort, Michel.
Oui, c'est fort intéressant. En sachant quand même que l'âge qui vient nous conduit vers des situations où on manquera d'autonomie. On finira par dépendre d'autres. Donc l'espérance qui est sous-jacente dans tout ce que vous faites, elle doit quand même être située dans une perspective où le grand âge viendra un jour et où on entrera dans des situations où l'autonomie sera perdue.
Tout à fait, mais l'autonomie sera perdue pour les 2-3 dernières années de votre vie, donc sur la fin de vie, mais sera gagnée toutes les années de vieillesse, entre guillemets. Vieillir en bonne santé, c'est tout à fait possible, heureusement.
Voilà, mais
c'est ça qui est important.
Ne peut-on pas aller plus loin en disant, mais cette autonomie que vous cultivez en même temps, que la bonne nourriture, en quelque sorte, ce n'est pas aussi un apprentissage pour maintenir en soi-même, au plus profond de soi-même, une autonomie qui, elle, demeurera même dans le temps de la dépendance, une autonomie intérieure. comment accéder à l'autonomie intérieure si on n'a pas la pratique de l'autonomie à la base?
Qu'est-ce que c'est voilà. L'autonomie intérieure, Michel?
Mais voilà, c'est une bonne question qu'il faut mettre à l'affiche de notre mission. Enfin, c'est être au fond de, j'imagine, au fond de soi-même, être capable de réfléchir et de décider par soi-même,
ouais.
Et ne pas être victime des pressions médiatiques ou environnementales.
Oui,
garder cette espèce de flamme intérieure qui... Peut-être que symboliquement, ce que vous faites me renvoie à cette réalité beaucoup plus spirituelle.
Après, il y a autonomie physique, oui. Mais il y a aussi l'autonomie mentale et psychique avec
oui,
les maladies neurodégénératives.
Aussi, oui,
bien sûr. Aujourd'hui, on a parfois son autonomie physique,
voilà.
Mais on perd son autonomie aussi de décision.
Oui,
et
l'inverse aussi.
Et l'inverse aussi, voilà. Et parfois il y a un lien effectivement aussi entre les deux.
Tout à fait.
On ne va pas rentrer dans tous ces détails, effectivement, mais c'est vrai, il faut le souligner. Virginie, est-ce qu'on pourrait revenir sur le côté éducatif et pédagogue que vous avez mis en place au sein de votre entreprise. J'aimerais qu'on insiste sur le côté plutôt scolaire. Alors là, on va revenir sur sur l'enfance. Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans notre éducation à bien manger?
Il me semble, alors est-ce que c'est l'école? Je ne sais pas. Probablement que c'est le meilleur vecteur. Qu'une éducation alimentaire faite dès le plus jeune âge grandira avec l'enfant. Et donc, même les personnes âgées, si elles ont été éduquées au démarrage, adopteront une conduite alimentaire qui sera favorable à leur santé. Donc, il me semble que c'est important. On a déjà fait des ateliers pour les enfants de sensibilisation. Les enfants sont des éponges. Donc, on a pu voir que lorsqu'ils allaient faire les courses après avec leur maman, c'est eux qui impulsaient l'achat de certains produits qui étaient intéressant. Donc c'est vraiment une clé. Oui. Après, il y a une problématique de ressources pour pouvoir développer des programmes qui soient des programmes organisés dans toutes les écoles. Il faudrait débloquer des budgets.
Il faudrait.
En période présidentielle,
j'allais vous le dire. Ça pourrait faire partie d'un programme d'un de nos candidats, absolument.
Enfin, vous m'aidez à choisir pour qui voter.
Je ne sais pas lequel propose ça.
Bon, semble-t-il, ça ne figure pas, en tout cas, au programme cette année. Hein. Michel, une autre question, Virginie.
Mais oui, bien sûr, ça serait intéressant de voir. Enfin, vous avez dit un mot là qui m'a beaucoup intéressé. Dans votre organisation, vous avez un souci de rayonnement, faire rayonner, c'est votre projet. Et ça, c'est au-delà du commercial.
C'est
très
bien
beau.
Sûr.
Ça fait partie du 100% humain dont on parlait tout à l'heure. Et bon, moi je titille un peu là avec mes questions, mais bien manger, bien vivre, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, ce bien-être malgré l'âge qui avance, est-ce qu'une de ces composantes aussi ne touche pas la question du partage? Et on trouve ça d'ailleurs indirectement avec la convivialité dont on parlait tout à l'heure. Mais est-ce que ce souci des autres ne fait pas aussi partie du programme du bien vivre?
Bien sûr, bien sûr. C'est le lien social et le partage va avec la convivialité dont vous parliez tout à l'heure. C'est aussi une clé, parce que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas envie de manger. On développe aujourd'hui des programmes pour les personnes âgées où on nous demande en fait de travailler sur l'éducation alimentaire, enfin ou la sensibilisation alimentaire de la personne, mais toujours à travers cette notion de lien social et de partage. Donc on construit nos ateliers pour que les gens se retrouvent à plusieurs et puissent échanger. Et ça, c'est capital. Et partager, faire un atelier culinaire à plusieurs, ou le partage, on ne mange pas qu'avec sa bouche, on mange aussi avec plein de choses.
Je pensais aussi à cette ouverture au-delà du cercle qui est autour du repas. Je pense aux gens qui ramassent de la nourriture dans les poubelles le soir, ou qui attendent à côté des pâtisseries pour récupérer des choses qui seraient jetées autrement, des invendus. Ouais, il y a donc cette dimension de solidarité, j'emploie ce mot à dessein, qui pourrait aussi faire partie du programme, mais ça échappe à votre propre perspective. Mais au niveau de la radio, quand même, c'est important.
Tout à fait.
Et je dirais, à ce moment-là, vous ayant écouté, et en pensant à une page de l'Évangile célèbre, où Jésus dit « J'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez désaltéré. Après vous avoir écouté, j'aurais envie d'ajouter une ligne. J'étais âgé et vous m'avez alimenté. comme il faut.
Merci Michel.
Merci à vous.
Ce sera presque le mot de la fin, Virginie, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Vous participez donc au salon Senior Occitanie le 20 avril. On va rappeler l'adresse, c'est au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. Radio Présence est partenaire de cet événement. Qu'allez-vous faire sur le salon? Vous allez pouvoir prodiguer quelques conseils avec votre réseau d'experts?
On va plutôt expliquer justement ce que l'on peut faire rayonner, comment on intervient et ce que l'on propose aux professionnels. On va également informer les seniors qui vont venir des différents ateliers que l'on développe sur le département pour qu'ils puissent éventuellement s'inscrire et venir participer. C'est gratuit, ces ateliers, donc je pense qu'un certain nombre seront intéressés.
Voilà, pour aller piquer quelques conseils sur comment bien manger.
Pour bien vieillir.
Pour bien vieillir, absolument. Merci à vous Virginie, merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.